Salut les Marc, salut les Smart, bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire, le catch ici toutes les semaines. On résume, on analyse les émissions phares de la WWE, SmackDown, Monday Night Raw, et pas que ça, on a aussi plein d'autres trucs. On a en ligne, par exemple, notre analyse de Backlash, donc allez jeter un petit coup d'œil. Et aujourd'hui, on va s'attaquer au Monday Night Raw du 15 juin, si je ne dis pas de bêtises. Pour m'accompagner, le nouvel homme fort, tiens, j'aime bien dire ça, de Catch Up. Papy, comment ça va, Papy?
Bonjour les enfants, ouais, ça va Ringside. Ah, bah, je suis ému, c'est une nouveauté pour moi de pouvoir discuter avec toi au sein de Catch Up. J'ai la main et la voix qui tremblent.
Oh, à ce point-là. Mais c'est vrai que je suis très ému aussi, alors ça va être une émission assez spéciale.
Il y aura des trémolos partout.
Voilà, pleine d'émotions. Écoute, ouais, non, je suis très content de faire cette émission avec toi, surtout que ça fait longtemps que j'avais pas fait un podcast, hein. C'est vrai que toute cette période-là de huis clos, moi, ça m'intéresse moyennement, mais bon, comme d'habitude, hein, on a des absents, il faut être là, et puis bah, ce sera l'occasion de faire ce premier duo. Alors, un Monday Night Raw historique, hein, puisque...
Toujours.
C'est l'arrivée de Bruce Pritchard aux commandes de Monday Night Raw.
Oh, on se frotte les mains, là.
Voilà. L'homme qui était en charge de SmackDown depuis un bon moment. Et il avait piqué la place à Eric Bischoff, on se souvient. Apparemment, Eric Bischoff, il ne travaillait pas trop. Hein, donc, on l'a gentiment remercié. On n'aime pas trop les gens qui ont des faux postes, hein, des emplois fictifs à la WWE. Et Bruce Pritchard, à la surprise générale, il vient de prendre les commandes également de Raw. Paul Heyman n'est pas totalement remercié, puisqu'il va se concentrer sur son personnage in-ring. Bon, on ne va pas vous cacher qu'on ne va pas le voir aujourd'hui, hein, Paul Heyman du tout. Mais voilà, c'est une nouvelle ère qui s'annonce. On va voir si ça tient ses promesses ou pas du tout. Alors, c'était du coup pour la première ère Bruce Pritchard, enfin le premier épisode de l'ère Bruce Pritchard. On va avoir un Monday Night Raw bien dense, donc du coup on va pas le travailler de manière chronologique. On va partir intrigue par intrigue, en commençant peut-être par ce qui était le moins intéressant, c'est-à-dire Liv Morgan qui arrive au ring accompagnée de sa mère Natalia. Elles vont affronter les Iconics dans un match entre classique. Victoire des Iconics qui du coup vont lancer un défi à Bayley et Sasha Banks, les actuelles championnes par équipe. On les reverra un peu plus tard, Bayley et Sasha Banks. Alors je comprends jamais trop ce qu'elles racontent, hein, les Iconics avec leur accent australien là. Mais en gros, elles se foutent de la gueule de Bayley et Sasha qui étaient des pleureuses. Et elles rappellent surtout qu'elles les avaient vaincues à WrestleMania pour les titres.
On le saura.
Déjà. Et ensuite, on a aussi un segment avec Liv Morgan et Natalia. Natalia qui est furieuse de la défaite. Parce que c'est Liv Morgan qui s'est pris le tombé. Elle explique que Liv Morgan, elle n'a aucune discipline. Hein, ça c'est pas bien, et qu'elle comprend pourquoi Ruby Riott l'a acheté du groupe le Riot Squad à l'époque. Liv Morgan s'en va d'un air énervé, sans rien dire, sans piper mot, et c'est Lana qui débarque pour expliquer à Natalia qu'elle la comprend. On reviendra sur le cas Lana parce qu'il lui arrive pas mal de choses dans l'émission. On va se faire vite fait Sasha et Bayley aussi qui arrivent au ring, qui font une petite promo. Il y a les Iconics qui débarquent également. Ça s'engueule.
Ouais, c'est l'anniversaire de Bayley, non? Ou un truc comme ça?
C'était l'anniversaire de Bayley, qui avait fait une coupe de cheveux spéciale pour son anniversaire, une coupe de cheveux gâteau, si j'ai bien compris. Allez savoir ce que ça veut dire.
Plutôt tarte, je pense.
C'est ça. Alors, elle rappelle un peu leur palmarès, hein, Bayley et Sasha. Et puis, évidemment, les Iconics débarquent, elles leur demandent de se taire, elles relancent le défi en expliquant toujours qu'elles les avaient battues à WrestleMania. Sasha s'énerve, elle se prend une tarte dans la gueule. Et Bailey s'énerve aussi. Elle accepte le défi des Iconics, alors que Sasha, visiblement, n'était pas trop chaude hein, pour accepter le challenge. Mais du coup, voilà, c'est lancé la rivalité entre Sasha Bailey et les Iconics. Et donc, peut-être une association, Natalia Lana aussi. Ça bouge tout de suite au niveau de la division féminine. Qu'est-ce que tu en as pensé, mon papy ?
Ah bah ça fait rêver en tout cas, tout cet enchaînement de petits segments. Donc on commence avec une Natalia Liv Morgan qui se transforme en Natalia Lana, ensuite une petite engueulade entre les Iconics et Sasha et Bayley sur fond d'anniversaire de Bayley. C'était pour un gâteau, c'était assez indigeste. Pour le coup, c'était c'est une association de j'allais dire de malfaiteurs, mais c'est pas à ce point-là quand même, mais au moins de choses inintéressantes. Voilà, elles sont toutes regroupées. Bah, après voilà, si elles restent ensemble, au moins ça évite qu'elles polluent d'autres rivalités. Mais non, c'est globalement sans intérêt. La seule chose à retenir finalement, je pense, c'est que les Iconics restent à la title picture et puis voilà quoi. C'est pas plus mal. Elles sont revenues il y a un mois, ça serait comme dommage qu'elles repartent aussi vite quoi.
C'est ça, autant les exploiter un petit peu jusqu'au bout. Une bonne rivalité avec Sasha et Bailey. On continue à teaser un petit peu les dissensions entre les championnes.
Ah, ça tease. Hein.
Ouais, ça tease. Bon, ça fait 4 ans hein, qu'ils nous le teasent quand même. Ouais. Mais bon, au moins comme ça, c'est cohérent. Et puis bon, Natalia Lana, effectivement, ça fait pas trop rêver. Mais bon, voilà, on voit qu'ils savent pas trop quoi faire avec toutes ces filles-là. Donc, ils se couent un peu le panier et puis... On verra bien ce que ça donne.
Il y a peut-être une tag team Natalia Lana, ça va piquer, je pense. Hein.
Ouais. Ouais, alors ça, il n'y en a aucune des deux qui m'intéresse. Mais du coup, elle a eu un joli segment de micro, Natalia. C'est assez respectueux pour la patriarche de la division féminine. Lana, on va encore en bouffer un moment, hein, j'ai l'impression, malheureusement.
Bah, est-ce que ce sera dans le ring ou en ringside à coacher Natalia ? À voir quoi. Est-ce qu'ils veulent peut-être lui redonner une dernière chance avec la plus expérimentée pour que qu'elle trouve enfin sa place, mais
ouais, ouais. Hein, il lâche pas le morceau hein, avec Lana, hein. Mais c'est que ça doit marcher au niveau de l'audience, hein, à mon avis.
Certainement.
Une jolie blonde. Hein. Bon, Natalia, jusqu'au bout, hein, ils l'utiliseront aussi.
C'est le Big Show. Hein.
C'est le Big Show de la division féminine, effectivement. Donc là, elle est redevenue méchante, hein, je pense. Ou alors on considère qu'elle est gentille, je ne sais pas.
C'est une tweener, en fait, finalement. C'est la nouvelle Steve Austin, Natalia.
C'est la Steve Austin et le Big Show de la division.
Voilà.
Bon, allez, on va avancer, on peut passer l'heure là-dessus non plus. Tiens, si on parlait d'Apollo Crews.
Ah oui.
Hein, Apollo Crews, donc, qui est le champion US, il a battu Andrade à Backlash. Dans le pré-show, faut pas déconner non plus. Et ce soir, il affronte Shelton Benjamin, le revenant Shelton Benjamin, qui est toujours là. Hein. Comment on appelle ça ? Le mec qui est là depuis longtemps.
Hein, vétéran.
Un vétéran, voilà.
Il sort des cartons.
C'est ça. Alors, il y a MVP qui vient voir Apollo Crews dans les vestiaires et il lui dit, mec, si tu veux conserver ton titre US, hein, c'est bien d'être un champion combatif, mais il faudrait mieux que je sois de ton côté. Tu peux te faire conserver le titre, tu peux devenir un vrai grand champion. Vaut mieux être malin que combatif. Ça n'a pas trop l'air de convaincre Apollo Crews qui lui dit non, écoute, je n'ai pas besoin de toi. Ça va aller. Et donc, on a le match entre Shelton Benjamin et Apollo Crews. Et alors, bon, ça y va toujours. Assez technique hein, entre les deux, et puis assez virevoltant. Ah, Shelton Benjamin, il a encore bien la forme. Il fait notamment un joli running knee dans la face d'Apollo Crews, là, dans le coin du ring. Shelton Benjamin a l'avantage, il va faire un tombé, mais il va poser ses pieds sur les cordes. L'arbitre va le caler, hein, il va lui dire « Écoute, on ne fait pas ça ». Et pendant que Shelton Benjamin est en train de discuter avec l'arbitre, il dit « Non, mais on a le droit de faire ça normalement ». Il se prend un petit paquet par un roll-up hein, par Apollo Crews et ce petit perfide Apollo Crews va aussi tenir les cordes, mais ça l'arbitre va pas le voir et ça va lui permettre de faire la victoire. Donc un match assez rapide, une défaite expéditive de Shelton Benjamin qui se fait bouger, l'arroseur arrosé, et Apollo Crews qui se révèle être un petit tricheur aussi hein, il s'en va hilar Je t'ai bien eu, Shelton Benjamin. Alors, j'avoue que comme je n'ai pas énormément suivi Monday Night Raw, puis encore moins la carrière d'Apollo Crews, je ne sais pas si c'était déjà teasé cette espèce de heel turn là, d'Apollo Crews qui devient perfide.
Bah, si ouais, t'avais pas. Le seul truc qu'il y avait eu, c'était quand le match contre Kevin Owens, où au moment il fait style de se prendre un coup de pied dans les parties, alors qu'il avait tapé ailleurs Kevin Owens, mais au final il se relève quand même et il finit le match normalement à Apollo. Donc c'était un teasing sans lendemain, donc je sais pas si. Ou alors c'est pour montrer à MVP qu'il est pas si bête, enfin qu'il peut être malin tout seul. Du coup, parce que je sais pas si c'était diffusé à Raw ou sur le site WWE, mais à un moment, il me semble qu'il y a MVP qui veut avoir Shelton pour lui dire, tu sais, après le match, ouais. En disant, bah tiens, finalement, ça te dirait pas de venir avec moi plutôt. Donc peut-être il semble avoir vu ça, un petit segment vidéo, mais c'est peut-être pas diffusé dans Raw, c'est peut-être juste sur le site internet.
Écoute, j'en ai pas de souvenir, donc je pense que.
Ou je l'ai rêvé, c'est possible.
C'est possible aussi, mais peut-être qu'on en saura plus la semaine prochaine.
Peut-être.
Ouais, j'avais lu quand même des rumeurs sur la formation d'un clan, hein, vraiment autour de MVP, Bobby Lashley, et effectivement on parlait de Shelton Benjamin. Donc ce serait ça permettrait d'intégrer Shelton Benjamin à leur trio.
Ah, et peut-être un joueur pour le Crows aussi qui.
Ouais. Pour X raison. Quel est le point commun entre ces quatre personnes? J'ai du mal à voir.
La peinture peut-être.
Ah oui. C'est sûrement qu'ils font du 46.
Voilà, c'est possible. Je vois pas d'autre chose. Hein.
Ouais, je vois que ça. Ouais, bah en tout cas, c'est plutôt sympa. Ça donne de l'épaisseur à Apollo Crews, je trouve, tout ça.
Oui, c'est bien un champion qui se bat.
Voilà, qui triche un petit peu. Non, bon, comme ça, au moins, il passe un peu moins pour un con qu'il a l'habitude.
Oui.
Hein, ça donne un peu d'épaisseur au personnage. Son
grand sourire. Hein.
Voilà, hein, son gros problème, c'est qu'il était complètement transparent, ce bon Apollo. Et puis, il faut exploiter un petit peu Shelton Benjamin, parce qu'il est encore en grande forme, le mec. Hein.
Ah oui, il sort une fois tous les 36, et puis à chaque fois, c'est top niveau en termes de performance.
Ouais. Exactement. On va voir que c'est le retour un petit peu des vétérans. Hein. Je trouvais pas le mot tout à l'heure, je vais le réutiliser à foison maintenant.
Voilà.
C'est un peu le retour des vétérans cette semaine. On va exploiter un petit peu les nouveaux, mais on va remettre en avant les anciens. C'est une première étape, hein, cette histoire entre Apollo Crews, Shelton Benjamin, MVP, hein, MVP aussi, ça fait des années qu'il est là. Enfin, des années qu'il est là. Il a été absent.
C'est peut-être aussi pour remonter les audiences, hein.
Ouais, clairement, ils ont besoin de gros noms, hein, parce qu'il y a quand même une chute assez faramineuse des audiences, sachant que c'est bien remonté cette semaine. Hein. Bon. C'était la meilleure audience depuis longtemps, ça a même battu l'annonce de Becky Lynch quand elle était...
Dans l'enceinte, hein.
Elle est toujours, quoi, mais quand elle a annoncé sa grossesse.
Ah, c'est peut-être aussi l'effet backlash parce qu'il était pas mal le pay-per-view par rapport à ce qu'on a vu à bouffer ces derniers temps.
C'est vrai, c'est vrai. Et il y a aussi le retour de quelques gros noms.
La totale,
voilà. Puis peut-être un peu moins de mutinerie aux États-Unis, etc., etc.
Oui.
Ça donne un petit peu de place, hein, pour le catch. Hein. Alors, la suite des opérations. De qui on va parler? Tiens, les Viking Profits.
Allons-y.
Allez, c'était un peu le fil rouge de l'émission. Les Vikings. Alors, on les avait laissés dans une poubelle après le segment complètement nawak, hein, de Backlash, où ils ont affronté notamment des ninjas menés par Akira Tozawa. Mm-hmm. Ils sont maintenant potes, hein, les Viking Riders et les Street Profits. On appelle ça les Viking Profits. Ils sont en coulisses et il y a Akira Tozawa qui débarque à nouveau avec ses ninjas. Il veut un nouvel affrontement. Donc, il va y avoir un match d'un côté, les Viking Raiders et les Street Profits, et de l'autre côté, tous les ninjas d'Akira Tozawa. Donc, ils vont se foutre sur la gueule. C'est évidemment les Street Profits qui gagnent, mais Akira Tozawa, il n'en a pas fini, il ramène son ninja géant, hein, il a un grand ninja black avec lui, et là-dessus, les Street Profits et les Viking Raiders qui sont quand même pas trop chauds, à part Eric, pour aller affronter le ninja géant. Ils ont un allié inattendu. C'est rien que moins que le Big Show qui débarque. Et du coup, bah, ça fait battre en retraite Tozawa. Hein. Il y a 2-3 ninjas qui se font encore éclater. Et puis Tozawa s'en va avec son ninja géant. Alors le ninja géant, c'est un mec qui bosse à NXT, qui fait des... qui était notamment au House Show à NXT. C'est un basketteur nigérian qui avait été embauché en 2018, je crois, à NXT. Qui s'appelle Jordan. Son nom est imprononçable, Omoge Begin, un truc comme ça. Bref, c'est un rookie d'NXT hein, qui est encore très, très green, mais qui a un physique impressionnant, hein, comme on peut le voir. Je crois que c'est tout ce qu'il y avait au niveau de cette...
Non, après, tu as le petit segment backstage avec, où ils sont justement à 5 avec le Big Show. Et le Big Show leur explique que pour clore la rivalité, ce serait peut-être bien de faire un match un jour.
Ouais. Entre les Street Profits et les Viking Raiders, ouais, d'accord. Ça, et puis, ouais. Du coup, ils ont booké le match alors.
C'est ça, ouais, c'est pour le prochain Monday Night Raw. Il est booké un vrai match entre les deux.
Et ben voilà, parfait.
Enfin.
Viking Raiders, Street Profits, la semaine prochaine à Monday Night Raw. On va enfin avoir du catch. Hein.
Il est temps. Voilà.
Sinon, toi, ça te perturbe ces ninjas
Bah, sur Backlash, j'ai trouvé ça plutôt marrant finalement parce que ça permettait en plus, juste avant le main event, ça permettait une bonne respiration. Et puis pour le coup, ils étaient vraiment partis loin dans le délire en utilisant de la force ou plein de références à la con, donc c'était plutôt drôle. En plus, ils avaient l'air de bien s'être amusés. Là, faudra pas que ça dure en fait. Hein. Heureusement que ça part sur un vrai match entre deux. J'ai eu peur que ça dure plusieurs épisodes entre les ninjas versus les Street Viking Raiders Profits. Donc oui, il est plus que temps qu'ils se battent dans le ring. À la limite, s'ils veulent garder les ninjas, qu'ils se le gardent pour le segment low card avec, comme on le verra plus tard, Gartrous par exemple. Où pour le coup, c'est très adapté finalement qu'ils aient ce genre de bêtises. Quoi. Mais là, il faut qu'eux se ressentent sur le catch.
C'est ça, exactement. Ouais, faut quand même utiliser les Viking Raiders ou les Street Profits pour les faire catcher parce que ils sont capables quand même de faire des gros matchs. Maintenant, c'est, surtout en période de coronavirus, c'est peut-être un peu malin de conserver les matchs pour des événements où ça aura vraiment de l'importance. Et puis les ninjas, bon, moi je trouve ça rigolo. Le segment de Backlash, il était un peu bancal. Il y avait des trucs qui étaient rigolos, d'autres qui étaient un peu
moins. Il y avait du mal à démarrer.
Ouais, c'est ça. Et puis c'était ça s'est terminé un petit peu en queue de poisson. Il y a des trucs qu'on comprend vraiment pas où ils voulaient en venir. Mais du coup, je trouve que ça, voilà, le fait d'avoir repris le truc cette semaine, ça donne un petit peu plus de. On va pas parler de cohérence pour ça, mais ça. Ouais, ça permet de faire un peu boucler la boucle, hein, comme on dit.
Ouais, un petit peu de continuité.
Voilà, une petite continuité, et puis d'exploiter un peu plus, à mon avis, Tozawa dans son rôle de ninja, là, on risque de le voir pendant un moment.
Ouais, je pense qu'il faut le garder, en plus, surtout s'il y a son garde du corps qui le suit partout, parce que là, le rookie, bah, il a juste à rester debout pour faire le job, finalement. Donc,
c'est ça.
Donc, ouais, ça serait pas mal que ça se garde pour des petits segments backstage fun, quoi.
Bon, là, on sent la patte de Bruce Pritchard. Hein. Il aime bien se moquer des Japonais ou des Chinois.
Ah, bah oui.
Donc là, on est servi. Voilà, bon, bah voilà, hein, c'est la déconne Monday Night Raw. Hein, ça. Il faut un peu y revenir à ces vieilles astuces. De qui qu'on va parler maintenant on va aller voir. On a vu les Japonais, on va aller voir les Mexicains.
Voilà, on fait le tour du monde.
Voilà, hein, on fait un peu le tour de toutes les ethnies. Charlie Caruso, la belle Charlie Caruso, reçoit Angel Garza et Zelina Vega. Donc, bon, elle leur demande un peu s'ils ne sont pas la cause de la défaite d'Andrade à Backlash, hein, puisqu'il y avait une petite intervention d'Angel Garza qui n'était pas très bien terminée pour Andrade, hein, ça s'était un peu retourné contre eux. Garza il répond que bon vraiment sincèrement il a le cœur brisé mais on sent que c'est pas trop pensé hein. Qu'il est désolé pour ce qu'il a fait à Andrade comme je disais donc on sent pas trop la sincérité dans les propos ce soir il va affronter Kevin Owens il drague un petit peu Charlie. Il explique qu'après avoir battu Kevin Owens, il pourrait peut-être avoir invité Charlie au milieu du ring pour une petite discussion. Hein. Il a l'air plutôt charmé. Là-dessus, il y a Andrade qui arrive et puis qui baragouine un peu un truc qu'on ne comprend pas trop. Il lui souhaite un petit peu bonne chance, mais on sent que c'est pas sincère. Et surtout, il lui dit « J'espère que tu accepteras la défaite face à Owens hein, », c'est-à-dire qu'Andrade considère que Garza va se faire botter le cul. Et effectivement, il y a ce match entre Kevin Owens et Angel Garza. Il y a Andrade qui est aussi dans le coin du ring. Zelina Vega est là. Elle finit par s'en aller, je crois, à un moment donné pendant le match. Angel Garza se fait battre hein, par Kevin Owens parce qu'Andrade était intervenu. Il s'est disputé avec Angel Garza. Il s'engueule aussi backstage, hein, je crois, après.
Oui, ils n'arrêtent pas de s'engueuler de toute façon.
C'est ça, hein, ça s'engueule à fond. Mais Zelina Vega, elle revient quand même et puis elle leur dit « Maintenant, ça suffit de vous battre l'un contre l'autre. Il faudrait vous battre ensemble. Voilà, on va peut-être s'orienter vers une tag team Andrade-Garza. »
Souhaitons-le, vraiment... en tout cas.
Ouais, ou alors c'est vraiment un clash.
Enfin, moi, je préférerais que ce soit une tag team, pour le coup.
Mais bon, je suis plutôt d'accord. Bon, Kevin Owens dans l'histoire qui se prend une petite victoire facile.
Bah, faut bien qu'il gagne un peu de temps, quoi, parce qu'il est quand même vachement plus haut que dans la carte, donc pas non ouais. plus. Il fait déjà bien le job. Faut quand même qu'il en éclate un de temps en temps, quand même, histoire de rappeler qui c'est le patron, quoi.
Exactement. Hein, c'est un peu bizarre qu'il soit pas un peu plus haut dans la carte. Kevin Owens, il y a peut-être des petits problèmes de santé. Enfin, c'est pas. Bien, ouais, il n'est pas venu aux enregistrements, je crois. Oui, il est parti lors des derniers enregistrements. Il y a un problème de Covid à hein, la WWE.
Aïe, aïe, aïe.
Cette semaine, ils ont fait venir dans le public des amis de ceux qui travaillent, des employés. Enfin, ils disent que c'est des amis, la famille des employés. Bon, techniquement, au départ, c'était des. Ils laissaient rentrer un petit peu de public.
Des vieux clodos.
Voilà, et du clodo, quelques hobos. Il y a eu un cas de Covid. Alors après, ils ont dit non, on n'a jamais laissé rentrer de public. C'était juste des amis, des gens qui travaillent. Tout ça n'est pas très clair. C'est un peu le bordel. Beaucoup de scandales en ce moment dans le monde du catch. Mais peut-être qu'on en parlera à SmackDown parce que là, on n'a pas trop le temps. Hein. Il y a beaucoup de choses à parler. Bref, les clochards au milieu du public. Kevin Owens qui a battu Angel Garza. Mais Angel Garza qui est quand même bien poussé hein, pour un jeune. Hein.
Yes, non, parce mais ça, c'est bien que ça continue pour lui. Il est plutôt pas mal, Angel Garza, je trouve. Hein. Il arrive à bien trouver son personnage. Il a bien vite pris le pli avec son petit séducteur, son histoire du pantalon qu'il enlève en mode striptease là, à chaque fois. Mm. Donc c'est des trucs pas mal. Par contre, en ce moment, je trouve qu'il a tendance à parler un poil trop au micro, un peu comme d'ailleurs Andrade. Et bon, alors lui, on comprend à peu près Andrade, il baragouine des trucs, on comprend jamais rien. C'est dommage, il vaudrait mieux d'utiliser un peu plus Zelina, là, qui arrivait bien à les monter tout en haut de l'affiche, les deux gars, là. Donc, ouais. C'est...
Andrade, c'est une catastrophe, hein, au micro, on dirait. On dirait Nakamura, hein.
Une bah patate chaude dans la bouche.
C'est ça. Écoute, si je sais pas parler anglais, il faut pas parler, tant pis, hein, tu seras pas Main Eventer, mais il faut se faire une raison. Parfois. On espère qu'on s'oriente vers une tag team Garza-Andrade pour un combat hein, contre les Viking Raiders ou les Street Profits.
Oui, voilà, en plus, il n'y a que deux équipes face pour l'instant, donc autant rajouter une équipe heel dans la, bah, dans la mixture.
C'est tout à fait logique. Ça, c'est aussi la patte Bruce Pritchard. Hein. Il y a de la logique derrière.
Voilà.
Bon, alors. Avançons, de qui qu'on va parler. Il y a encore des filles, je crois, dans l'histoire. Il y a Asuka qui est là.
Ah oui.
Qui va affronter pour la revanche Nia Jax. Donc, elle a aussi un petit segment micro hein, où elle dit que Nia Jax a commencé la guerre et que Asuka va la terminer. Je crois qu'il y a Charlotte aussi qui est dans le coin, qui discute avec Ric Flair.
Ouais, je crois pas c'est possible. Non, j'ai plus de souvenirs là, mais effectivement, Ric Flair était là en tout cas, donc il est possible qu'ils aient papoté ensemble.
C'est ça. Alors après, il y a un match, donc Asuka, Nia Jax. qui est évidemment gagné par un petit paquet, un petit roll-up des familles.
Enfin.
C'est ça. Nia Jax, encore une fois, s'est engueulé avec l'arbitre. Et Asuka en a profité. Donc, victoire. Est-ce qu'on peut dire indiscutable d'Asuka? Je ne sais pas, parce que c'est quand même qu'un roll-up.
Indispensable, peut-être, plus qu'indiscutable.
Ouais, indispensable. Il fallait qu'elle ait une victoire sur Nia Jax, ouais.
Voilà, qu'elle prenne pas une défaite contre Nia Jax, quoi. Alors là, ça serait...
Non, pas non plus aller dans les extrêmes de la voir perdre, mais je sais pas si on peut dire que cette victoire-là est définitive. Je pense qu'elles vont encore se foutre sur la gueule une fois ou deux.
Ouais, je le crains. Malheureusement que ça nous augure que petit à petit, on se dirige vers un match à Extreme Rules.
Ouais, ça je le sens bien. Ouais, sans règle, justement, parce que Nia Jax, elle arrête pas de s'engueuler avec les arbitres.
Voilà, il y a eu des comptes extérieurs, là, elle perd parce qu'elle s'engueule avec l'arbitre.
Mais alors ça peut être pas mal, hein, parce que Asuka en mode no holds barred, c'est pas mal, hein. On se souvient du match contre Nikki Cross à NXT.
Ah oui, c'était bien celui-là.
Ouais. Et Nia Jax, je pense, je trouve que ça fonctionne bien avec Asuka. Je suis pas, bon, je suis comme tout le monde, hein, je suis pas très fan de Nia Jax, mais face à Asuka, bon, faut dire qu'Asuka, elle arrive à faire des bons matchs avec quasiment tout le monde. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Maintenant, effectivement, Nia Jax, pas de règles face à Asuka. Je pense qu'on aura Asuka à l'hôpital avant la fin du mois.
Oh, j'espère l'inverse, quoi. J'espère qu'Asuka va vraiment lui péter sa gueule, quoi.
Allez, un petit coup de pied dans la tête, un petit trauma crânien.
Voilà, allez,
et
hop.
Puis,
en tête de baraque.
On est débarrassé. Ouais, donc voilà. Bon, ça, c'était aussi cohérent, hein, du coup. Et puis, ça continue la trique tranquillement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, si on parlait de Rey Mysterio et son fils Dominique.
Ah,
on savait que Dominique devait être là ce soir. Rey Mysterio, lui, il n'était pas chaud, hein, pour envoyer son fils. Il y a toujours cette rivalité entre le Messie du lundi soir, Seth Rollins, et ses acolytes, hein, Murphy et Austin Theory. Rey Mysterio, on sait que Seth Rollins a éborgné Rey Mysterio. Du coup, Dominique, le fils de Rey Mysterio, veut sa vengeance. Et donc, on a Seth Rollins qui arrive au ring. Bon, il nous explique, comme d'habitude, qu'il est le Messie, hein, que Rey Mysterio a dû être sacrifié pour le bien de tout le monde. Et là, il y a Rey Mysterio qui apparaît sur le titantron. Il menace indirectement Seth Rollins. Hein, il dit, écoute, mon fils, il est parti. Il va venir à Raw. Je n'ai pas pu l'en empêcher. Quand il est parti, c'était trop tard. Je ne pouvais rien faire. Mais attention, si tu touches un cheveu de mon fils Dominique, je serai impitoyable. Je vais te terminer. Ça fait pas peur, hein, à Seth Rollins, hein. Il dit, écoute, soit c'est Dominique qui vient pour qu'on soit amis, soit malheureusement il faudra que j'en fasse un exemple, il faudra le sacrifier. Il met même un genou à terre, hein, Rollins, il en fait des tonnes. Et là-dessus, il y a Dominique qui débarque dans le dos de Rollins concrètement et qui vient l'attaquer, hein, une bonne corde à l'âge derrière la nuque. Il le tabasse un petit peu. Là-dessus, il y a Murphy et Theory qui débarquent. Mais Dominique réussit à s'enfuir. Il les nargue. Ils sont tous furieux, toute la bande de Seth Rollins. Et Rey Mysterio est soulagé et content de voir son fils avoir mis un petit taquet à Rollins. Voilà, la petite vengeance de Dominique. Bon. On l'attend avec impatience quand même, cette trahison de Dominique sur Rey Mysterio.
Ah bah oui, alors, ça c'est. Il faut que ça arrive, bien sûr. C'est plus qu'attendu, là.
Ça va être un grand moment, ça.
Bah oui, c'est dans la pure tradition de la passation père-fils.
Voilà, exactement. Alors par contre, bon. Dominique, physiquement, ça va être délicat quand même.
De quoi?
Il a pas de gueule, il a pas trop de physique.
Bah après, il mettra un masque.
Voilà.
Donc, au moins, ça va régler. Bah, tu sais, quand tu. Oui, voilà, c'est. Après, tu vois, un mec comme Rey Mysterio, il déborde pas de charisme, de toute façon. Hein. Tu le vois encore là au micro où il fait zut, alors, je voulais lui dire de rester, mais je l'ai raté. Hein. Ça fait une semaine qu'on sait que Dominique, il va aller se pointer à Raw et l'autre, Il le loupe, encore une fois. Enfin, c'est,
bah, il ne voulait pas dire qu'il avait été au cabinet. Et puis...
Voilà, bah oui, temps, ça... c'est ça. J'étais aux toilettes, désolé. Non, mais sérieux, c'est la loose en ce moment. Donc, bah oui, il faut espérer qu'il se foute sur la gueule. Là, Dominique, bah, il a fait son petit tour du ring, c'est bien. Il connaît maintenant à quoi ça ressemble la ring. Espérons maintenant qu'il sache en servir d'ici que la feude démarre enfin.
C'est ça. Bah oui, je pense qu'on finira par le voir entre les cornes, hein, quand même. Un peu à la manière de Cody Rhodes à l'époque. Mais bon, c'est plutôt bien mené, hein, tout ça. Seth Rollins, il est convaincant.
Oui, ils prennent leur temps, je pense.
Ouais, exactement. Bon, de toute façon, pendant Corona Mania, là, il faut prendre son temps. Ça sert à rien de rusher les trucs. Voilà, bah, c'est encore plutôt rondement mené, ce petit segment. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Alors, autre fil rouge de l'émission, le champion, Drew McIntyre. Ce soir, il y a un match de prévu, Drew McIntyre et R-Truth contre Bobby Lashley et MVP. Alors, il y a Bobby Lashley et MVP qui croisent R-Truth dans les couloirs. Hein. Ça commence à discuter, mais le ton monte assez rapidement. Hein. Il y a Bobby Lashley qui dit bon ce soir MVP t'es rigolo mais t'es en équipe avec Drew McIntyre mais là Drew McIntyre je le vois pas donc il y a pas trop de raison qu'on ne pète pas la gueule tout de suite là-dessus R-Truth il s'en va hein, direct il cherche pas trop la discussion après on les retrouve encore dans le ring il y a R-Truth qui explique que ce soir ce sera un winner takes all pour le match, hein. Si quelqu'un gagne, ben, il prend toutes les ceintures. Et il explique que comme ça, c'est bien. S'il gagne, il sera à la fois champion 24/7 et champion de la WWE. Alors McIntyre lui explique que non, ça marche pas comme ça. Le truc. Donc R-Truth, il va aller voir les officiels et il revient et il explique à McIntyre, écoute, j'ai arrangé les choses, ce sera pas un winner takes all. Si quelqu'un gagne le match, eh ben, il devient uniquement champion de la WWE. Mon titre 24/7 n'est pas en jeu. Il explique à McIntyre que ben, c'est parfait parce que lui, ça l'arrange hein, au final. McIntyre n'est pas très content. Il enrage. Bon, on recroise MVP et Lashley. Lashley va évidemment lui dire à McIntyre « Qu'est-ce qu'il y a ? T'as peur de mettre en jeu ton titre ? Tu serais pas un lâche ? Tu réfléchis à deux fois ?» bon, McIntyre, c'est un bonhomme. Il dit, écoute, non, même si je réfléchis, c'est bon, je tiens le challenge. Et donc, du coup, on a un match MVP, Lashley contre R-Truth et McIntyre. Match assez expéditif, hein, si je me souviens bien. McIntyre expose MVP et puis il va offrir le tombé à R-Truth. Et puis donc, tout le monde est content. Et je crois qu'après, il y a la discussion avec Lana, c'est ça ?
Je sais plus si c'est avant ça. C'est pas avant ça, la discussion avec Lana. Enfin, moi, il y a une discussion avec Lana.
Ah ouais, alors c'est plutôt dans l'émission, en fait. Vous avez dit que c'était un beau bordel, hein, ce monde de rétro.
Ouais, c'est cette partie-là.
C'est avant qu'il y a carrément Bobby Lashley et MVP qui viennent au ring. Et MVP explique que McIntyre n'est pas un vrai champion, n'est pas un homme. Bobby Lashley avait le match gagné, puis il y a eu l'interruption de Lana à Backlash. Ça a coûté la victoire à Lashley. Donc si McIntyre était un vrai bonhomme, il redonnerait sa chance tout de suite à Bobby Lashley. Donc ce qui va être fait au final, hein, puisque le match, il y a la ceinture, était en jeu. Là-dessus, il y a Lana qui débarque. Elle dit écoute, MVP, arrête de monter contre mon homme, tout ça. MVP dit mais toi, t'es là juste pour piquer la gloire de Lashley, t'es là pour l'argent. Lashley s'en mêle. Il dit écoute, t'es gentil, Lana, mais qu'est-ce que t'as ? Est-ce que tu t'es. T'as déjà lassé tes bottes récemment ? Est-ce que t'es déjà monté dans le ring récemment ? Parce que tu parles de nous, tu dis que tu nous as menés vers les sommets, mais bon, c'est moi qui fais tout le boulot. Elle dit quoi, moi, si je voulais devenir célèbre grâce à mon mec, je serais pas sorti avec toi, je serais sorti peut-être avec quelqu'un d'autre, par exemple, je crois
avec Drew.
Avec Drew, hein, tout simplement, bah oui, tant qu'à faire. Ou elle aurait pu se marier avec un Rousseff, par exemple.
Par exemple.
par exemple, hein, je dis ça comme ça. Et puis finalement, Lashley s'énerve, il dit écoute, ça suffit, moi je veux le divorce. Et puis ben, ils s'en vont, Lana et reste dans le ring comme une conne, hein, disons-le clairement. Et puis après, elle ira parler à Natalia, on vous en a parlé en début de show. Donc voilà, victoire de McIntyre, Ertrus qui fait n'importe quoi comme d'habitude, et le divorce, Lashley, Lana, ça très bien pour les affaires d'MVP. Voilà, beaucoup de choses. Est-ce que tout ça est intéressant ?
Oula, intéressant, c'est un grand mot là, pour, pour tous ces segments-là. C'était pas passionnant, j'étais limite déçu de qu'il soit pas le bout de l'idée avec Arthos qui aurait célébré avec la ceinture WWE pensant qu'il avait gagné, mais même pas, il a gagné, puis il a repris sa ceinture 24-7 comme si de rien n'était, il était moins fou que d'habitude. Je vais pas dire sans intérêt, mais pas avec énormément d'intérêt, on va dire, voilà, pour être poli.
Bon, ça a fait le taf quand même, hein, il fallait remplir les minutes de l'émission. Hein.
Exactement, ce que j'allais dire, ça a occupé des minutes.
C'est ça, non, il est quand même rigolo, Ertrus.
En plus, il a croisé les ninjas, en plus, pendant
oui, il y a aussi ça, là. Il a croisé les ninjas, je crois qu'il a rencontré le ninja géant.
Voilà, c'est là où Drew est arrivé pour lui dire ouais. « Voilà, t'es pas tout seul, mon copain.
» Et du coup, ils sont partis, hein. Les ninjas, ils ont eu peur de Drew McIntyre.
Et peut-être que du coup, moi j'espère pour le coup que la semaine prochaine, les ninjas s'attaqueront à Ertrus, parce que du coup, voir un Tozawa qui aurait une ceinture avec le géant qui le protège, ça m'amuserait un petit peu, ça peut-être.
Exactement, voilà, ça ce serait sympa, donc ce sera sûrement pour la semaine prochaine. On sait que tu bookes en sous-marin, hein, de toute façon.
Ah bah je lance plein d'idées, ça marche pas toujours, mais de temps en temps j'en passe une ou deux quand même.
C'est ça. Voilà, bon bah c'était tout à fait correct, hein, tout ça. En match expéditif, hein, y a pas eu de gros match. Hein.
Ouais, c'était pas une soirée catch. Hein.
Cette semaine à Monday Night Raw. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste ben forcément, le Legend Killer. Voilà. Alors, le début de show, je suis en train de regarder, hein, si j'ai rien loupé, mais je crois qu'on a vraiment fait le tour de tout. Le début d'émission, ça s'ouvre en fait avec Randy Orton, hein, qui débarque au ring. Vous savez que ce week-end, à Backlash, dont l'analyse est en ligne, hein, je vous rappelle.
Oui.
N'hésitez pas à aller l'écouter.
C'est elle est très bonne en plus. Hein. Ah non, mais c'était top niveau là.
Voilà, un des meilleurs podcasts ever. Greatest podcast ever, greatest catch-up ever. Voilà. Et greatest wrestling match ever aussi entre Randy Orton et Edge. Victoire donc de Randy Orton à Backlash. Blessure de Edge qui s'est retourné à biceps là. Et donc Orton arrive au ring, il dit voilà, bah, en gros, je vous ai dit hein, que j'allais m'occuper d'Edge. Je vous ai dit que j'étais le meilleur catcheur de tous les temps. Beaucoup considèrent que c'était le plus grand match de tous les temps, d'ailleurs. Il explique aussi qu'il remercie Edge. Hein, il lui a donné l'opportunité de redevenir le Legend Killer. Mais il savait hein, depuis le début que pour Edge, ça allait se terminer comme ça. Qu'il n'avait pas ce qu'il fallait hein, pour revenir dans le game. Et donc, il donne rendez-vous à Edge ben, dans 9 ans. Dans 9 ans, hein, puisqu'il devrait bien mettre quasiment une dizaine d'années à se remettre hein, de sa blessure, Edge. Et là-dessus, à la surprise générale, Christian débarque et il va aller engueuler Orton. Hein, il dit « T'es un mec froid, manipulateur, t'es un fils de pute. Edge, sa carrière n'est pas terminée. Moi, je le connais, Edge. Il va pas abandonner comme ça. » Il n'a pas démissionné, il ne démissionnera pas, il va revenir dans le game, et il va mettre fin à ta carrière, à toi, Orton. Orton, il dit non, mais de toute façon, toi, ça ne te concerne pas, toute cette histoire, ça n'a jamais été une histoire qui te concerne. Tout ça ne tourne pas autour de toi, Christian, tu es juste un jaloux. Je le vois dans tes yeux, je vois que tout ce que tu veux, c'est one more match, un match de plus. Hein, on se souvient de la rivalité Orton-Christian ou Christian.
Eh oui, déjà.
Christian avait perdu le titre hein, contre Orton et jusqu'au bout, il lui réclamait un match de plus, one more match, un classique hein, de l'histoire de la WWE. Et donc, voilà, Orton lui dit, voilà, t'es jaloux, hein, tu veux faire comme Edge. Donc, bah, écoute, je te donne l'occasion. Edge, il m'a redonné le feu sacré. Hein, donc, ce soir, je te propose un match unsanctioned, non sanctionné, un match illégal, hein, quasiment. Christian, il reste un petit peu bouche bée. Orton s'en va. Et donc, un peu bah, tout au long de l'émission, on va revoir Christian, qui va notamment discuter avec le Big Show. Alors, le Big Show, de bon conseil, lui dit « Écoute, mec, personne t'en voudra si t'y vas pas. Mais moi, à ta place, je lui pèterai la gueule. »
Voilà, bon conseil, bon copain, lui.
Bon conseil hein, du Big Show. Et après, il va croiser Ric Flair. Ric Flair qui lui dit « Écoute, Randy Orton, il est taré. Hein. Tu devrais pas y aller. Hein. Rentre à la maison. » Mais bon, Christian, il est déjà en tenue de combat quasiment. Il va se faire interviewer aussi par la belle Charlie Caruso. Il va frimer un petit peu. Il dit, regarde-moi comme je suis balèze, je vais aller péter la gueule à Orton. Et donc, bah, il y a ce match en fin d'émission. Randy Orton contre Christian. Un match non sanctionné, hein, parce qu'il n'est pas cleared, comme on dit. Hein, il n'est pas.
C'est pas okay, il ne peut plus catcher normalement, Christian.
Ah non, Christian, il ne peut plus, hein, c'est fini. C'est pour ça que c'est pas sanctionné. C'est illégal. Alors, il y a Ric Flair qui arrive. Il dit non, mais Christian, n'y va pas. T'es fou. Ça suffit. Tu vois bien qu'il est taré, Orton et tout. C'est dangereux pour toi. Christian, il dit non, écoute, il faut que je le fasse. Je m'en occupe. Je vais gérer ça. La cloche retentit. Et là, c'est la traîtrise de Ric Flair qui vient mettre un low blow à Christian. Hein, un bon coup de pied dans les. Enfin, un coup de poing dans les joyeuses. Christian s'écroule au sol et Randy Orton va lui placer son punt kick là, son corner kick dans la face. Et puis après, il va lui expliquer que c'est comme ça. C'est toi qui m'as forcé. Une belle image.
Il le pine, hein, d'ailleurs.
Pardon ?
Il le pine d'ailleurs. C'est un vrai match finalement.
C'est ça, c'est un vrai match. Hein. Il fait le tomber. 1, 2, 3. Hein. Christian, il est complètement out. Hein. Mm. Et Orton, il va le narguer encore un petit peu là. On a ces images de Orton couché sur Christian là, qui lui explique voilà, c'est ta faute tout ça, c'est ta faute. Je suis le Legend Killer, je suis dangereux, t'es qu'un fils de pute, des trucs comme ça.
Et puis en même temps, il dit au médecin autour, prenez-en soin, attention, faites gaffe à mon copain.
Ouais, voilà.
Il est vraiment complètement taré, ouais.
Double jeu, oui, bah oui, hein, c'est quand même son pote, hein, Christian. Il rappelle aussi un peu plus tôt dans l'émission que Edge l'avait aidé quand il était au fond du gouffre. Voilà, donc l'explosion du retour du Legend Killer qui détruit Christian, la trahison de Ric Flair.
Est-ce qu'il trahit vraiment du coup Ric Flair ? Je suis même pas sûr. Est-ce qu'il fait pas ça justement pour un peu taré comme Orton pour sauver Christian et lui empêcher de se battre ? En disant comme ça, au moins tu perds tout de suite, quoi.
Ouais, alors ça, les motivations de Ric Flair, je pense qu'on aura des explications un peu plus tard. Est-ce qu'ils vont mettre Ric Flair en manager d'Orton ? Ou est-ce que, comme tu dis, ouais, effectivement, il a essayé de sauver Christian et puis c'est lui qui va se faire défoncer la semaine prochaine ? Parce que je pense que là, on est parti pour un grand chelem de Orton qui va tuer tout le monde.
Ah, c'est le retour du Legend Killer.
Ouais, ouais, ouais. Bon, plutôt convaincu quand même par tout ça, non ?
Yes, plutôt, bah, c'est, je suis convaincu, puis voilà, un peu comme toi, je me demande ce qui va venir ensuite. Je dis, tiens, en plus, a priori, Edge est vraiment blessé pour longtemps, alors peut-être pas 9 ans, mais plus, au moins peut-être 9 mois ou un peu moins.
Ouais, on parle d'un retour en 2021, si j'ai bien compris. Voilà. Donc effectivement, là, il serait sur la touche.
Et du coup, alors, ils le savaient au moment où c'était diffusé Backlash, c'est-à-dire qu'ils ont maintenu le résultat comme ça.
Ouais.
Donc, est-ce que du coup, c'est l'occasion pour de refaire un méga Orton, alors peut-être pour après, à terme, leur mettre dans les pattes de Drew McIntyre, parce qu'il y aura besoin d'un grand heel derrière pour McIntyre une fois qu'il aura bouffé tout le monde.
C'est ça.
Donc, mais effectivement, là, il est efficace et perturbant, ouais, à faire des câlins à Christian tout en le pinant. En fait, tu sais vraiment pas ce qu'il veut vraiment, il engueule limite les médecins en disant attention à sa tête, attention à sa tête, alors qu'il vient quand même de lui mettre un gros coup de pied dedans. Enfin, ça titille l'intérêt, finalement, pour après toutes ces semaines chiantes à mourir où il se faisait des segments micro à distance entre Edge et Orton, bah, la surprise de voir Orton gagner et puis du coup bah, peut-être le pas de bol d'avoir Edge qui se blesse, ça relance un peu l'intérêt du truc, quoi.
Exactement, je trouve qu'on a un grand Randy Orton là pour le coup, qui est peut-être le mec le plus crédible du roster, la plus grosse superstar encore en activité, on va dire. Donc effectivement, c'est plutôt bien d'en faire le top heel de Monday Night Raw.
Puis il a super match de catch hein, contre Backlash. Ouais, ouais. Il était vraiment de gros niveau. Hein.
Exactement, mais Randy Orton, c'est quand même un mec qui a un niveau quand même assez élevé. Hein. Il est clairement au-dessus du reste de ses collègues. C'est vrai qu'il ne l'a pas souvent prouvé parce qu'il travaille à minima, hein, on va dire, les six morts, comme on dit souvent.
Feignasse.
Et là, il avait envie de se sortir les doigts du cul et de montrer un peu de quoi il était capable. Et ça n'a pas manqué. Hein. Le match est quand même très, très bon entre lui et Edge. Alors, Edge, il s'est blessé dans les ce qu'on appelle les reshoots, hein, c'est-à-dire les scènes supplémentaires qu'ils avaient filmées pour rendre le truc un peu plus épique.
D'accord.
Ce qui est vraiment dommage, quand même. Mais bon, voilà, ça arrive. Mais du coup, ouais, on a Randy Orton qui s'est replacé comme un des plus grands catcheurs du circuit. Il a son personnage là qui est hyper bien travaillé. Effectivement, on ne voit pas d'autres ennemis que McIntyre maintenant à ce niveau. Donc, je pense qu'ils vont peut-être envoyer quelques légendes encore se faire... quelques légendes plutôt, hein, ça suffit, se faire démonter. Mais moi, je suis assez content de voir qu'ils reparient sur Randy Orton comme ça.
Ouais, surtout t'as Extreme Rules derrière, donc du coup pour le coup c'est l'occasion de sortir une légende et faire un match totalement organisé autour de l'extrême en fait. Là pour le coup tu mets pas n'importe qui, mais même un mec qui a pas le cardio pour tenir, bah sur un format Extreme Rules avec en plus du montage, tu peux faire quelque chose de sympa, quoi.
Exactement, exactement. Donc c'est plutôt bien joué, plutôt cohérent, plutôt efficace. Peut-être l'occasion aussi de voir un jeune. Essayer de se caser face à Orton. Je pensais par exemple à Aleister Black, là, qu'on n'a pas vu, qui pourrait peut-être venir pour dire stopper un petit peu ce Orton psychopathe. Mais je pense quand même qu'on va s'orienter vers un affrontement contre McIntyre, hein, au final.
Ouais, alors Black, il est plutôt maqué avec. Enfin, maqué. Il est plutôt coincé dans la rivalité Mysterio, même si du coup, il est en second couteau, ce qui est peut-être un poil dommage pour vu son niveau, parce que lui aussi, il était plutôt sur une bonne pente avant. Ouais, alors moi j'aurais plus vu encore une légende du coup dans le long dit lignée de légende killer. Pourquoi pas un Shane McMahon peut-être qui ressortirait des cartons pour faire un match extrême et se faire botter le cul.
Ah, ça serait malin.
Ou un.
Qui doit être dispo, genre, Shane, hein,
parce que Mick Foley, je pense que c'est plus possible. Donc plutôt Shane.
Ouais, Angle, Kurt Angle peut-être.
Ah ouais, pourquoi pas Kurt Angle. Ouais.
Parce qu'ils l'ont viré, mais ils aiment bien l'utiliser encore. Donc...
Ou il sera jamais vraiment viré, lui.
Non, je pense pas. De toute façon, personne n'est jamais vraiment viré à la WWE, à part Enzo Amore, évidemment.
On sait pas dans 10 ans ce qui se passera, mais bon.
Ouais, on sait pas.
Et après, il y a peut-être pas suffisamment de talent pour revenir, lui. C'est peut-être surtout ça.
Et oui. Ouais, on a tous des problèmes. Voilà, on a fait le tour de ce Monday Night Raw qui était vraiment très dense, hein. Plein comme un œuf. Mm-hmm. Et c'est l'heure maintenant du traditionnel mot de la fin, hein. Tu connais, hein, comment que ça se passe. On donne un top, on donne un flop, on donne une note.
Et oui.
Écoute, vas-y, lâche-toi.
Je vais me lâcher. Alors le top, c'est facile, je vais rester dans la continuité de ce qu'on vient de dire. C'est Orton Super Killer. Il est vraiment chaud bouillant là. Depuis Backlash. Enfin, il était déjà un peu avant, il avait fait des bonnes promos avant, mais alors, Backlash est là, ça fait un enchaînement de grande qualité à son niveau. Donc. Mon top à Randy, je vais pas redire ce que je veux te dire à l'instant. Mon flop, j'hésite. Je veux pas le donner à la division féminine parce que ça serait un peu trop violent. Mais l'association Lana, Liv Morgan, Natalia, les blondes là, ça. Ça m'en a même pas touché une pour s'en faire bouger l'autre, ça m'a rien touché du tout là. Donc voilà, le flop pour ces filles là. Et ma note, j'ai pas réussi à m'enflammer trop pour ce Raw, hormis ouais voilà sur la partie finale là qui m'a un peu tenu en haleine. Mais sinon, le reste, c'était bien sans plus. C'était assez plan-plan, quoi. J'ai trouvé par pas mal de moments. Donc, du coup, en note, je vais mettre un 2,25. Voilà. J'ai pas non plus, je suis pas assez enflammé.
Alors, ça fait pas la moyenne, ça. Hein.
Non, non, j'essaie. Non, mais j'aurais bien voulu donner la moyenne, mais voilà, j'ai pas le petit le truc qui m'a fait bondir le cœur, là, en ce rôle.
Ok, ok. Bah c'est bien que ça t'en ait pas touché une ni rien du tout, hein, parce qu'en ce moment, les scandales sexuels, ça y va, hein, dans le monde du catch.
Ah, c'est pas le moment.
Donc voilà, reste loin de ton slip. Ouais, alors moi, faut que je donne aussi un top, un flop, une note. Le top, je vais le donner à Christian, que j'ai trouvé vraiment super convaincant dans l'acting. Il a vraiment fait le taf comme il fallait. Ouais, j'ai pas mentionné, mais le son de promo quand même, hein, les deux, hein, Orton et Edge, et Christian, pardon, ensemble, là, ça fonctionnait comme à la belle époque. Hein. J'espère que les jeunes, ils en ont pris un petit peu de la graine.
Ah bah en ce moment, c'est des leçons hein, pour les jeunes, surtout ceux qui sont autour derrière les vitres, là. Ouais, je pense qu'ils prennent pas mal de leçons.
Regardez bien tout ça, les petits jeunes, là. Donc voilà, moi je vais donner mon petit top à Christian, on n'aura peut-être pas l'occasion de le refaire, j'étais content de le revoir, c'était mieux que quand il venait faire des peep shows, des trucs comme ça, là, essayer de faire les cons, c'était pas marrant. Là c'était sérieux, c'était cool.
Serious business.
Le flop, alors ouais, c'est toujours tentant de le donner à la division féminine, bon, moi il n'y a rien qui m'a trop dérangé cette semaine, hormis... je sais pas pourquoi, alors je sais pas si c'était ma version qu'il y avait, mais tous les segments qui étaient backstage, j'avais un son de merde quasiment inaudible. Donc j'ai envie de mettre mon flop à la technique.
D'accord.
Parce que pour un truc enregistré quasiment live dans les studios de machin, avoir un son de merde pendant les scènes backstage, c'est pas possible. Hein. Il faut travailler un peu plus ça. On aurait dit un podcast de Tonton et Raphaël. Là.
Le coup bas!
Voilà, c'est juste un shoot, en fait, pour tirer sur les collègues.
C'est vrai que techniquement, il y a des trucs... J'ai remarqué aussi que parfois, il y a des erreurs dans les promos, tout ça. Ils s'en foutent, ils la laissent passer telle quelle. Je me demande si c'est pas cette semaine où il y a Garza qui confond Kevin Owens et Andrade dans sa promo, où il
d'accord,
dit...
D'accord, bah, je l'ai pas rêvé, alors, on est d'accord. Parce que j'en ai pas parlé, mais effectivement, Garza, il se gourre dans sa promo. Hein. Il dit une fois
qu'il
y a Andrade...
C'est ça, une fois que j'aurai battu Andrade, il le dit. Donc je me suis dit, tiens, c'est peut-être un lapsus volontaire, ils vont rebondir dessus, mais non, ça ne dérange personne, on roule et puis on recoupe pas derrière. Bon, c'est très ouais. Bien. Hein.
Ouais, alors là, c'est bien la peine d'avoir des trucs enregistrés, etc. Mais bon, ils ont peut-être pas. Après, ils ont se récupéré, ils n'ont pas trop le temps, peut-être, de faire tout ça, mais bon, quand même, un peu de sérieux, les enfants. Et puis ma note. Moi, j'ai donné plutôt 2,75. Alors, je suis vraiment jamais emballé par ces shows à huis clos, mais bon, on n'est plus vraiment sur du huis clos. Il y avait beaucoup de segments, il y avait très peu de catch, donc ça, je trouve que c'est plutôt pas mal à l'heure actuelle, parce que les matchs comme ça, avec du faux public, j'ai vraiment du mal à rentrer dedans et à suivre. Donc ça m'a plutôt plu. Il y a plein d'histoires qui bougent, tout ça est cohérent, on sent que ça va vers des trucs... qui vont déboucher sur des gros matchs pour le pay-per-view, donc je trouve ça plutôt plutôt sympa. Après, c'est vrai qu'à la fin, par contre, j'étais épuisé. Hein. C'était quand même quelque part un petit peu long, peut-être un peu trop de trucs. Donc il y a encore un petit dosage, je pense, à gérer. Mais je trouve que ce démarrage là par Bruce Prichard, c'est plutôt encourageant. Hein. C'est clair que SmackDown, c'était pas la joie depuis l'arrivée sur Fox. Mais je pense aussi qu'à SmackDown il y a un gros problème de roster et que c'est un peu difficile de faire quelque chose d'intéressant avec ce qu'ils ont là-bas.
Ouais.
On a vu quand même qu'il y avait toujours un payoff dans les pay-per-view, hein. Même si les histoires qu'ils racontent c'est peut-être pas celles qu'on a envie de voir, hein, les Otis et compagnie, mais je trouve que c'est plus cohérent, un peu plus pertinent au final, un peu plus efficace que par rapport au payoff, hein, qui doit y avoir dans les pay-per-view que peut-être ce qu'on a à Raw. C'est pas la première fois que Paul Heyman, il se fait virer. Hein.
Oui, il reviendra.
Il reviendra. Je pense que lui doit avoir vraiment un problème, tu vois, interne pour gérer les trucs. Je pense qu'il doit être dépassé assez facilement et qu'au final, au final, quand tu es dans une entreprise, etc., ça peut te porter préjudice. Parce que c'est clairement pas la première fois qu'il s'engueule et qu'il disparaît comme ça, alors que ça se voit pas forcément à l'image qu'il y a des soucis. Ou alors c'est juste une histoire de ratings, je ne sais pas.
Ouais, ou alors peut-être juste qu'en fait, ils s'aiment pas de base, en fait. Donc du coup, ils savent qu'ils sont entre pros, donc ils travaillent ensemble, mais ça finit toujours par jaillir, en fait, le fait que... Puis comme effectivement les ratings n'étaient pas bons en ce moment, c'est l'occasion de tourner la page, peut-être de le forcer à partir, peut-être.
Ouais. Ouais, on n'en saura jamais la vérité jusqu'à ce qu'ils finissent par parler. Mais bon, on peut émettre des hypothèses. Enfin bref, moi je trouve ça plutôt encourageant. Bon, papy, il va falloir passer à l'auto-promo.
Vas-y.
Si vous nous écoutez sur YouTube, ça j'aurais dû le dire avant, hein. Parce qu'on est dispo sur YouTube, hein, évidemment. Si vous venez de nous découvrir, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas surtout à mettre un pouce. Hein. D'ailleurs, tous ceux qui écoutent sur YouTube, là, il faudrait mettre un pouce. Très très important, vous sauvez un bébé phoque à chaque fois que vous mettez un pouce. Je dirais même que si vous mettez pas un pouce, à chaque fois que vous écoutez et que vous mettez pas un pouce, il y a un bébé phoque qui meurt
dans le monde. Ouais,
c'est ça. Donc il faudrait vraiment penser à vous y mettre, les gars, hein. Si vous faites pas pour nous, si vous le faites pas pour vous, faites-le pour les bébés phoques.
Voilà.
On est aussi dispo sur toutes les plateformes de podcast, hein, Deezer et compagnie, là, Spotify, trucs comme ça. On a un Facebook, on a un Twitter, c'est @ketchupcdc. Je crois même qu'on a un Instagram. Voilà, venez sur le Discord aussi, hein, on vous attend, vous pourrez discuter avec nous.
Vous verrez, vous pouvez me poser des questions.
C'est ça, hein, dans les commentaires, là, n'hésitez pas à donner vos impressions un peu sur ce début là, de l'ère Bruce Pritchard. Si vous avez trouvé qu'on a raconté de la merde, n'hésitez pas à le dire. Si vous êtes d'accord avec nous, n'hésitez pas à le dire. Voilà, posez des questions.
Abonnez-vous.
C'est gratos. Alors, en plus, c'est gratos. Donc, c'est l'occasion d'en profiter.
On est bientôt à 1000 en plus.
Voilà, c'est ça. Et si, quand on arrivera à 1000, on vous fera une belle surprise. Je vous ferai une vidéo de ma collection de pop de catch. Vous verrez, c'est super.
Ouh.
Voilà, bah écoute. Papy, pour cette première, je suis très content de notre performance qui était quand même au-dessus du lot. Hein, j'ai l'impression.
Ah oui, ça faisait plaisir. Non, mais semaine après semaine, on atteint des nouvelles hauteurs. Enfin, c'est toujours parfait, quoi.
Ouais, c'est étonnant de voir à quel point on peut encore progresser, hein, malgré toute l'expérience qu'on a. Voilà, je te remercie beaucoup d'être venu.
Bah, merci pour l'accueil, merci pour le... Voilà, là que je sais plus quoi dire. Je suis troublé.
C'est ça,
voilà. C'est l'émotion me reprend.
On a tenu pendant une heure, mais à un moment donné, on est obligé d'être submergé.
Voilà, c'est je craque.
C'est ça. Et ben du coup, il ne me reste plus qu'à remercier également nos auditeurs. J'espère que ça vous a plu. À écouter autant nous qu'à enregistrer. Et puis, on se retrouve bientôt pour le débrief de SmackDown. Et puis, n'oubliez pas d'aller écouter notre débrief de Backlash. Allez, à bientôt les amis. Ciao, bye bye.
À bientôt, salut à tous.